Bonjour à tous et à toutes. Je vous souhaite un très bon sabbat. Récemment, nous nous sommes examinés avant la Pâque. Nous avons, logiquement, pris conscience de certaines choses dans notre vie et, logiquement aussi, nous nous sommes repentis. Nous avons commencé à éliminer le péché, ce qui est notre responsabilité face à l'immense sacrifice de Jésus-Christ qui est mort pour nos péchés. Nous avons observé la fête des pains sans levain avec cet élan qui a démarré avant la fête et nous nous sommes beaucoup investis. Déjà avant la Pâque et nous avons pris la Pâque, pour ceux parmi nous qui sommes baptisés, nous avons observé la fête des pains sans levain. Nous avions un but avant la fête. En s'examinant notre vie, en nous examinant pour voir nos vies. Et maintenant, notre but est de continuer ce que nous avons commencé avant la Pâque, et que nous avons continué, logiquement, à faire pendant la fête, donc de persévérer dans notre lutte contre le péché, de persévérer dans notre lutte contre le péché. Et si nous voulons récolter les fruits de notre comportement, il nous faut continuer cette lutte. Notre but, donc, n'est pas de retourner en arrière à un passé que nous avons connu, mais de continuer à éliminer ce que Dieu a permis que nous avons vu chez nous, et ceci avec zèle. Monsieur Ayalek Bedzi, c'est notre ministre au Togo, a prononcé une sermonnette la semaine passée sur le Zoom, où il a dit qu'il nous faut poursuivre notre sanctification, qu'il faut fournir des efforts. Il y a des grandes bénédictions quand nous fournissons ces efforts, mais il faut que nous soyons diligents. Il y a toujours le risque de relâchement et ça peut être fatal, point de vue spirituel. La sanctification devrait être une de nos préoccupations. Et abandonner, ce sera fatal. Donc, il y a une qualité qui va nous aider à ne pas abandonner, à poursuivre notre sanctification, c'est le zèle. Le zèle, c'est le titre de ce sermon. Le zèle que nous devrions avoir dans notre vie. Probablement, vous n'avez pas entendu parler d'une certaine Anita Nancy Bernstein. Elle est une juriste américaine spécialisée en droit de la responsabilité civile, experte en jurisprudence féministe et en déontologie juridique. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle a inventé, elle a concocté, elle a utiliser le terme, en anglais, zeal shortage, c'est-à-dire en français, pénurie de zèle. Une pénurie de zèle. Je pense qu'elle a fait référence à un manque de zèle dans sa profession. Et évidemment, il est facile pour nous, parce que nous vivons dans une société de consommation, et d'être pris dans cette société de consommation et d'où justement de manquer de zèle. Quand nous regardons la vie de Saul, avant qu'il soit converti, qu'il devienne l'apôtre Paul, il a fait preuve de beaucoup de zèle. Un zèle mal dirigé, mais il avait beaucoup de zèle. Et par la suite, il était parfaitement au courant des erreurs de zèle dans sa propre vie. et il a regretté profondément. Nous voyons dans les Actes que lorsqu'Étienne était lapidé, que Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Et même, il est allé plus loin, ça ce n'était qu'un début, parce qu'avec le zèle, nous voyons qu'il ravageait l'Église, l'Église de Dieu. Pénétrant dans les maisons, il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Son zèle, le zèle de Saul, était fondé sur de fausses informations, motivé par un désir jaloux de protéger son héritage religieux, dans lequel il croyait, et lui et d'autres personnes ne doutaient pas qu'ils avaient raison. Ils n'ont pas tenu compte du fait qu'ils auraient pu s'égarer. Et comme celui de Saul, le mauvais zèle est souvent basé sur des connaissances faussées, des motifs condamnables, la haine, l'orgueil. Avec les problèmes que le zèle peut causer, devrions-nous tout simplement y renoncer ou pas? La réponse, nous le connaissons. La Bible parle du zèle, du bon zèle pour Dieu. Déjà, Judas, à l'époque d'Ézéchias, était très zélé pour les fêtes de l'Éternel, pour la voix de Dieu. Ils sont revenus à Dieu, la nation de Judas, sous le règne d'Ézéchias. Et nous voyons dans 2 Chroniques, chapitre 30 et le verset 21, 2 Chroniques, chapitre 30 et le verset 21, nous lisons ceci. C'était une grande époque de réformation. Verset 21. Ainsi les enfants d'Israël qui se trouvèrent à Jérusalem célébraient la fête des pains sans levain pendant 7 jours avec une grande joie. Et chaque jour, les Lévites et les sacrificateurs louaient l'Éternel avec les instruments qui retentissaient en son honneur. C'était une fête exceptionnelle, une fête très riche. Il y avait une grande joie, comme c'est marqué. Verset 22, Ézéchias parla au cœur de tous les Lévites qui montraient une grande intelligence pour le service de l'Éternel. C'était très intense. Ils mangèrent les victimes pendant 7 jours, offrant des sacrifices d'action de grâce et louant l'Éternel, le Dieu de leur père. Et ils étaient tellement zélés pour la voix de Dieu, pour les fêtes de Dieu, qu'ils ont ajouté 7 autres jours. Ils ont voulu vivre cette expérience de nouveau, cette expérience intense. Verset 23. Toute l'assemblée fut d'avis de célébrer 7 autres jours, et ils célébrèrent joyeusement ces 7 jours. De nouveau, nous avons la notion de joie. La joie est soulignée à travers ces quelques versets. C'était une grande bénédiction. Verset 25. Toute l'assemblée de Juda et les sacrificateurs, les Lévites et tout le peuple venu d'Israël et les étrangers venus du pays d'Israël ou établis en Juda, donc c'était vraiment, vraiment tout le monde, se livrèrent à la joie. De nouveau, la joie répétée. Verset 26. Il y eut à Jérusalem de grandes réjouissances et depuis le temps de Salomon, fils de David, roi d'Israël, rien de semblable n'avait eu lieu dans Jérusalem. Verset 27. Les sacrificateurs et les Lévites se levèrent et bénirent le peuple, et leur voix fut entendue, et leur prière parvint jusqu'aux cieux, jusqu'à la sainte demeure de l'Éternel. Ils étaient proches de Dieu, avec toutes les bénédictions que cela procurait. Pour faire allusion à la sermonnette de M. Ayala Legbedzi. Après tout, la Bible dit, demandez et l'on vous donnera. Si nous sommes proches de Dieu, Dieu va entendre nos prières. Dieu va répondre à nos prières. Nous avons dans le psaume 63, le psaume 63 est un psaume écrit par David où il est question, où nous voyons son zèle. Vous me direz, oui, mais c'était David. Mais justement, David était un exemple pour nous, et toujours un exemple pour nous. Psaume chapitre 63 et le verset 1. Psaume de David, lorsqu'il était dans le désert de Juda. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. Et bien sûr, le mot en hébreu pour âme, c'est nefesh, qui désigne l'être tout entier, tout comme le mot corps. David donc compare son désir ardent d'être en contact avec Dieu, avec son Dieu. Il le compare à une soif incessante d'eau dans le désert. Évidemment, dans le désert, on a vraiment soif, on a vraiment besoin d'eau. L'eau est l'un des plus beaux symboles de la Bible. Et notre monde, si on veut faire l'extrapolation, notre monde est véritablement un désert en ce qui concerne l'eau spirituelle. Et nous voyons, nous nous rappelons aussi de ce que le Christ a dit dans Jean 7, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Mais il nous faut avoir cette soif. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Je continue à lire. Il dit cela de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Jean 7, 37 à 39. Jean 7, 37 à 39. Dans notre monde, la véritable connaissance de Dieu est rare et la présence du Saint-Esprit est peu répandu. L'eau vive, ou ce qu'on peut appeler aussi, plus précisément, l'eau qui donne la vie, c'est, on comprend davantage pourquoi il faut vraiment vouloir cette eau. Donc l'eau qui donne la vie représente ce don de l'Esprit de Dieu qui nous maintient spirituellement sains et en bonne santé spirituelle. Tout à l'heure, je parlais de Saul avant qu'il soit converti. Saul qui a été très zélé, il a gardé, il a maintenu ses zèles, mais dans la bonne direction après. Il y a dans la Bible d'autres exemples d'un mauvais zèle. Nous le voyons par exemple dans Jacques chapitre 3, le verset 14, si vous voulez vous rapporter. Jacques chapitre 3 et le verset 14, où il est question de ce que la Bible appelle un zèle amer. Jacques chapitre 3 et le verset 14. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer, et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne montez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Et Satan utilise les émotions. Satan peut jouer sur nos émotions. Et l'un des plus grands moyens d'attraction de Satan sur les gens réside justement dans leurs émotions. Logiquement, nous, en tant que chrétiens, nous pouvons connaître la différence entre le bien et le mal. Nous sommes enseignés à ce sujet. mais nos émotions peuvent souvent nous amener à ignorer cette logique. Et Satan peut utiliser des émotions telles que l'orgueil, le désir, la luxure, la colère, le doute, la peur, l'amertume et l'envie. Et Satan va nous attaquer souvent là où nous sommes émotionnellement faibles. Par exemple, quand nous n'avions pas eu ce que nous avions espéré avoir, ou ce que nous pensons être en droit d'avoir. Il s'agit ici de quelqu'un qui est zélé, mais c'est un zèle qui est mélangé avec l'amertume, et ce n'est pas de Dieu. Il s'agit de la sagesse de la chair, c'est l'antithèse de la sagesse de Dieu, et cette fausse sagesse est également identifiée par ses fruits, et ses fruits contrastent justement fortement avec les fruits de la sagesse de Dieu. Nous voyons ce contraste dans les versets 16 et les versets 17. Verset 16, « Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. » Les fruits sont mauvais. Verset 17, « La sagesse dans l'eau est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. » La sagesse de Dieu, au contraire, engendre de très bons fruits. La version second 21 parle d'un esprit de rivalité à la place d'un esprit de dispute. Et le semeur traduit la phrase de la façon suivante, plein d'amère jalousie. Il y a aussi un autre danger en ce qui concerne le zèle, le mauvais zèle. Le danger, c'est de vouloir tourner les gens vers soi au lieu de les aider d'aller vers Dieu. C'est humain et ça peut être une tentation surtout si nous avons un poste, une position ou de l'influence sur d'autres personnes. 2 Timothée chapitre 2 et le verset 2 dit, je ne vais pas m'y rapporter, mais 2 Timothée chapitre 2 verset 2 dit ceci, quand Paul parlait à Timothée, « Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » C'est un chaînon, une exigence de loyauté pour ceux qui ont des postes dans l'Église, des positions dans l'Église, et ce cas où les gens essayaient de tourner les gens vers eux-mêmes, c'était le cas dans l'Église de Galate. Nous le voyons dans Galate, si vous voulez vous rapporter, dans Galate chapitre 4 et le verset 17. C'est très clairement indiqué, Galates chapitre 4 et le verset 17, où nous lisons « Le zèle qu'ils ont pour vous, et à côté de Dil, vous avez peut-être le numéro 1, en bas de ma Bible, c'est marqué « Il, les gens qui troublent les Galates et cherchent à les détourner du pur évangile. » Verset 17, donc je reviens, « Le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas pur, mais ils veulent vous détacher de nous. » Paul était un représentant de Dieu, un ministre de Dieu, « mais ils veulent vous détacher de nous afin que vous soyez zélés pour eux. » Verset 18, Paul revient sur le zèle en l'utilisant dans un autre contexte. Il est beau d'avoir du zèle pour ce qui est bien et en tout temps, et non pas seulement quand je suis présent parmi vous. Et spirituellement, ces gens détruisaient l'Église, ou essayaient de détruire l'Église. Il parle, dans le verset 17, d'un zèle qui n'était pas pur. Et dans l'Église, notre motivation, notre zèle, devrait être pure, de rechercher le bien, ça devait être notre motivation profonde. Et nous pouvons tous penser à des choses qui ne sont pas pures dans ce monde dans lequel nous vivons. Les voies du monde ne sont pas basées sur les voies de Dieu. En donnant la définition du mot zèle, loueur, l'ouvrage biblique, dans la définition, parle de brûler avec ardeur. Brûler avec ardeur, ça vous donne la force du mot. Bouiller, ah bon, ça peut être avec envie, haine ou colère, mais dans le bon sens, être ardent dans la poursuite du bien. Être ardent dans la poursuite du bien. Et Dieu, nous sommes familiers avec ce que Dieu a dit à l'Église Laodicée. Aie donc du zèle et repens-toi. C'est le même mot. Nous pouvons aussi être zélés pour nous-mêmes. Nous pouvons, par exemple, être zélés pour nos propres buts, pour nos propres projets qui nous tiennent à cœur, et c'est assez souvent le cas, et nous sommes à ce moment-là zélés pour atteindre nos buts ou l'aboutissement de nos projets. 1 Pierre chapitre 3, le verset 8, à partir du verset 8, donne nos buts en tant que chrétien, les buts d'un chrétien, ce qui devrait constituer nos buts. 1 Pierre chapitre 3, le verset 8, si vous voulez vous rapporter, 1 Pierre chapitre 3 et le verset 8. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point mal pour le mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Il continue dans le verset 10. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voit des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et s'élève des paroles trompeuses, des choses qu'il faut éviter. Ce sont des buts, parmi d'autres buts, pour nous en tant que chrétiens, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuivre. C'est une recherche, c'est un but que nous devrions avoir bien en tête dans notre vie. Verset 13. Et qui vous maltraitera si vous êtes zélé pour le bien? Voilà un genre de résumé, si vous voulez, d'être zélé pour le bien. Et dans cet épître, Pierre revient souvent sur le besoin de faire le bien. Comme par exemple, dans 1 Pierre chapitre 2 et le verset 15, 1 Pierre 2, 15, car c'est la volonté de Dieu, cela devrait aussi être notre désir, car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés, étant libre, sans faire la liberté, un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Nous venons de voir quelques cas où le zèle peut être mal utilisé. Il y a aussi l'exemple de l'église de Corinthe, où le zèle qu'ils avaient, après, dans le deuxième épître, était un zèle qui était bon. Un zèle pour Dieu et un zèle pour Paul, nous le voyons dans 2 Corinthiens chapitre 7 et le verset 7. 2 Corinthiens chapitre 7 et le verset 7. Je saute ici au milieu d'un contexte. Par l'arrivée de Tite, et non seulement par son arrivée, mais encore par la consolation que Tite lui-même ressentait à votre sujet. Il nous a raconté votre ardent désir, vos larmes, votre zèle pour moi, en sorte que ma joie a été d'autant plus grande. Le mot ici est similaire à ce que nous venons de voir. Et le loueur traduit, enfin, dans la définition de ce mot, comme excitation, agitation de l'esprit, ardeur, ferveur de l'esprit. Il parle de zèle, ardeur dans l'embrasement, la poursuite, défendre n'importe quoi. Ardeur en faveur d'une personne ou une chose. Ça peut aussi être négatif. La violence de l'indignation. Mais ici, dans ce contexte, nous voyons très clairement que c'est positif. Dans le verset 11, Paul décrit les fruits, si je puis dire, les fruits du repentir de l'Église de Corinthe, suite à ce qui s'est passé, qu'il a décrit dans le premier épître. Verset, donc, 2 Corinthiens chapitre 7 et le verset 11, et voici cette même tristesse, selon Dieu, a produit donc des fruits. Quel empressement n'a-t-elle pas produit en vous? Quelle justification, quelle indignation, quelle crainte, quel désir ardent? Il est question ici du zèle ou des mots qui ont rapport avec le mot zèle, parle d'empressement. Quel désir ardent, quel zèle? Quelle punition! Vous avez montré à tous égards que vous étiez pur dans cette affaire. Et Paul a vu le repentir, il a vu le zèle pour changer. Ils ont changé. Et ils étaient zélés pour changer. Dans 2 Corinthiens chapitre 8 et 2 Corinthiens chapitre 9, il est question de l'assistance destinée aux saints. Et Paul fait appel à cette ardeur dans le chapitre 9 et le verset 2. Chapitre 9, verset 2, « Je connais en effet votre bonne volonté dont je me glorifie pour vous auprès des Macédoniens en déclarant que Achaïe est prête depuis l'année dernière. Et ce zèle de votre part a stimulé le plus grand nombre. » Évidemment, il s'agissait des gens qui avaient les moyens pour donner, qui avaient les moyens financiers ou autres pour donner. Dans Romains chapitre 12, nous voyons énormément de superlatifs qui sont évoqués, qui sont employés. Nous ne sommes pas forcément habitués dans nos sociétés à notre époque. Romains, si vous voulez vous reporter à Romains chapitre 12 et le verset 8. Romains chapitre 12 et le verset 8, nous lisons ceci. Et celui qui exhorte, je saute au milieu d'un contexte, et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Verset 9. Que la charité soit sans hypocrisie, ayez le mal en horreur. Ayez le mal en horreur, il faut vraiment détester le mal. Attachez-vous fortement au bien. Il s'agit donc de notre comportement, comment il faut se comporter en tant que chrétien. Verset 10, encore les superlatifs. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur, usé de prévenance réciproque. Verset 11. Ayez du zèle. Il faut déjà être zélé dans les autres domaines que nous venons d'évoquer. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervent d'esprit. Il souligne donc ce zèle. Et bien sûr, nous trouvons cette ardeur, ce zèle, cette ferveur chez Paul lui-même. Lui qui était déjà zélé avant sa conversion a continué, bien sûr, à être zélé, très zélé pour Dieu après sa conversion. Nous connaissons dans Éphésiens chapitre 6, verset 15, je ne m'y rapporte pas, Éphésiens chapitre 6, verset 15, le verset qui dit « Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle qui donne l'évangile de paix. » Ceci est écrit dans le contexte de l'armure pour un chrétien. Et si nous voulons poursuivre notre sanctification, comme M. Aya Legbedzi a dit dans sa sermonnette, il nous faut du zèle. Il nous faut du zèle pour progresser, du zèle pour pratiquer notre religion, du zèle dans notre cheminement spirituel, dans notre avancement spirituel. Quand nous allons enseigner dans le royaume, c'est notre rôle, c'est ce que Dieu a prévu que nous allons faire, quand nous allons enseigner dans le royaume de Dieu, nous allons aider d'autres personnes à éliminer le péché de leur vie, à obéir à Dieu et à pratiquer la voie de Dieu. Et nous pouvons, nous allons leur donner à ce moment-là l'instruction dont ils auront besoin. Nous allons être zélés pour leur enseigner les choses de Dieu, parce que nous-mêmes, on sera passé par là, nous-mêmes, on aura été zélés pour éliminer le péché de notre vie, pour obéir à Dieu et pour pratiquer la voie de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 12 et le verset 31. 1 Corinthiens chapitre 12 et le verset 31. Aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Évidemment, Dieu n'est pas heureux de la façon de vivre des êtres humains. Dieu offre une meilleure façon de vivre. Et ce verset précède ce que nous voyons dans 1 Corinthiens chapitre 13, qui est connu comme le chapitre de l'amour. Il parle d'une voie par excellence. Et la voie d'excellence, c'est la voie de Dieu. C'est aussi la voie de l'amour. Et c'est intéressant parce que les versions Martin, Osterwald et Darby disent « désirer avec ardeur ». Désirer avec ardeur. Pas uniquement désirer, mais avec ardeur. Avec ce zèle que Dieu veut que nous ayons dans nos vies. Le Shuraki dit carrément, soyez zélés. Soyez zélés. Nous avons un exemple de quelqu'un qui était zélé. Zélé pour l'église, zélé pour les frères. C'était l'exemple d'Epaphras. Pas très très connu, mais nous voyons cet exemple décrit dans Colossiens chapitre 4 et le verset 12. Colossiens chapitre 4, verset 12. Epaphras, qui est des vôtres, vous salue, donc Paul qui écrivait à l'église de Colosse. Epaphras, qui est des vôtres, vous salue, serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières. Il était fervent d'esprit, afin que parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu, un amour débordant pour les frères de l'Église. Quand je lui rends témoignage, et c'était Paul qui parlait, lui qui était lui-même très très zélé, quand je lui rends le témoignage qu'il a une grande sollicitude pour vous, pour ceux de Laodicée et pour ceux d'Hierapolis. Là de nouveau, cette fois-ci, il s'agit des versions Martin, Ostevat et le Synodal. Il parle d'un grand zèle, qu'il avait pour ses frères dans l'Église. Et le second, 21, dit ceci, « Il se dépense sans compter pour vous. » Il n'y a pas beaucoup de gens à notre époque qui se dépensent sans compter pour les autres, qui a un amour qui est débordant, qui sont zélés pour donner, pour aider. Il a un grand zèle pour vous. Nous voyons aussi dans le chapitre 1, toujours Colossiens, si vous tournez la page, Colossiens chapitre 1 et le verset 7, ce que Paul dit aussi à propos d'Epaphras. Je saute de nouveau au milieu d'un contexte, verset 7, chapitre 1, verset 7. Dieu, conformément à la vérité, d'après les instructions que vous avez reçues d'Epaphras, notre bien-aimé compagnon de service, qui est pour vous un fidèle ministre de Christ. Notre bien-aimé compagnon de service, il servait avec zèle. Il servait ses frères dans l'Église avec zèle. C'est un exemple pour nous. Quels sont les domaines où il faut être zélé? Premièrement, nous voyons avec la prière, 1 Thessaloniciens chapitre 3 et le verset 10. 1 Thessaloniciens chapitre 3 et le verset 10. De nouveau, Paul qui parle. Nuit et jour, nous le prions avec une extrême ardeur. Pas uniquement une ardeur, mais une extrême ardeur de nous permettre de vous voir et de compléter ce qui manque à votre foi. Nous avons bien entendu la trilogie, la prière, l'étude biblique, la méditation, parce que si nous voulons être zélés pour obéir à Dieu, au commandement de Dieu, il faut d'abord être zélé pour savoir ce qu'il faut faire, pour connaître la parole de Dieu. Sinon, nous ne pouvons pas être zélés pour obéir parce qu'il faut savoir ce qu'il faut faire. Et puis, il y a la méditation. Nous pouvons voir les domaines où nous manquons de zèle. Première chose, donc, la trilogie. Prière, étude et la méditation. La deuxième chose, nous l'avons déjà vu tout à l'heure, plusieurs reprises, c'est le bien. Il faut être zélé pour le bien, pour faire le bien autour de nous. 1 Pierre chapitre 3 et le verset 13. 1 Pierre chapitre 3 et le verset 13. C'est ce que nous avons vu tout à l'heure. Et qui vous maltraitera si vous êtes zélé pour le bien? Vous pouvez aussi ajouter Galates chapitre 6, verset 9. Je ne m'y rapporte pas. Normalement, les gens vont apprécier si nous faisons du bien. À plus forte raison, si nous sommes zélés pour le bien. Et peut-être, ils vont vous remercier. Et ça peut même créer des liens avec nos semblables. Le troisième domaine que j'ai voulu évoquer, où il faut avoir du zèle, bien sûr, il y a d'autres domaines, mais j'ai voulu au moins évoquer ces trois domaines, c'est le travail, d'être zélé pour le travail. C'est ce que nous voyons. Nous connaissons bien Ecclésiaste chapitre 9 et le verset 10. Ecclésiaste chapitre 9 et le verset 10. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Il faut s'appliquer à travailler avec zèle de notre vivant. Et nous avons aussi Colossiens chapitre 3 et le verset 23. Colossiens chapitre 3 et le verset 23 qui dit « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. » Pas d'une façon désinvolte, mais de bon cœur. Que nous devons faire les choses, que nous devons travailler. Il faut être sérieux au travail, il faut bien travailler. Il faut se donner de la peine. Et il faut du zèle. Il faut du zèle dans ces trois domaines. Il y a bien sûr d'autres domaines où il faut du zèle, mais j'ai voulu, comme j'ai dit, au moins évoquer ces trois domaines. Il n'y a que des avantages à être zélé pour le bien, pour obéir à Dieu et pour le bien des autres. Nous lisons dans Proverbes chapitre 13 et le verset 4, Proverbes chapitre 13 et le verset 4, « L'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire, mais l'âme des hommes diligents, des hommes zélés, sera rassasié. » Mais il faut aussi un équilibre. Bien entendu, avec le zèle, il faut avoir de la sagesse. Il faut un équilibre. Sinon, le zèle peut détruire des familles, peut détruire notre santé. Il nous faut des moments de détente et de relaxation. Et nous voyons que le Christ a dit à ses disciples, dans Marc chapitre 6 et le verset 31, Marc chapitre 6 et le verset 31, Jésus leur dit, « Venez à l'écart dans un lieu désert, et reposez-vous un peu, car il y avait beaucoup d'allants et de venants, et ils n'avaient pas même le temps de manger. » Le sabbat a été fait pour l'homme, pour que nous puissions physiquement nous reposer, être rafraîchis, être restaurés spirituellement et physiquement. J'ai voulu terminer un petit peu ce sermon avec la première loi de Newton. Nous connaissons probablement la fameuse histoire de la pomme de Newton. C'est une des anecdotes scientifiques les plus connues au monde. Je ne voulais pas parler de la loi de la gravitation. J'ai voulu parler, parce qu'il y en a trois, mais j'ai voulu parler de la première loi de Newton. C'est la loi de l'inertie. Que je vous donne la définition de cette loi. Un corps reste au repos ou à vitesse constante si aucune force extérieure n'agit sur lui. Autrement dit, une force doit être appliquée à un corps pour changer son état de mouvement ou de repos. Nous savons dans l'Église que le changement est difficile, que le changement ne va pas de soi. Mais malgré ces difficultés, il est nécessaire, c'est ce que Dieu veut, c'est ce que Dieu a dit, le christianisme consiste à changer, à travers le repentir et le dépassement de soi. Et ce point de vue-là, la loi de Newton peut nous aider à mieux comprendre. Le changement dans la vie d'un chrétien est contre nature. Parce que naturellement, nous avons tendance à poursuivre dans la voie de la facilité. Nous ne changerons pas sans une force extérieure. Le changement, ou une force intérieure aussi, le changement n'est pas passif. Nous devons l'initier. Si un objet est immobile, il faut le pousser. Et il nous est demandé de, et je cite, de Timothée 1, verset 6, c'est ce que Paul a dit à Timothée, « Ranimer le don de Dieu que tu as reçu. » Ranimer le don de Dieu que tu as reçu. Et pour changer, nous, en tant que chrétiens, tout comme c'est évoqué dans la première loi de l'inertie, pour changer, nous avons besoin de la force extérieure, donc du Saint-Esprit, agissant en nous, allié, et ça c'est important, allié à un zèle personnel pour le changement, que nous voulons vraiment changer, un zèle pour le changement. Paul nous dit que le processus de transformation de nos vies et de conversion passe notamment par la diligence, l'indignation, un ardent désir et du zèle. C'est ce que nous avons vu dans 2 Corinthiens chapitre 7 et le verset 11. C'est cette énergie dont nous avons besoin pour changer avec, bien sûr, l'aide du Saint-Esprit de Dieu. Nous devons voir notre besoin de progresser, de ne pas être un laodicien, mais d'être zélé pour devenir une meilleure personne, un meilleur chrétien.